Camille Combal, tous les jours de 16h à 19h sur Énergie.
On est toujours sur Énergie, on est en direct avec vous et avec Denis Brognard, notre invité ce soir. On parle de Koh-Lanta, bien sûr.
Je vais vous organiser un conseil, il va y avoir un éliminé ce soir.
Ouais, c'est pas qui, mais en vrai, j'aimerais un bouquin. Ouais.
Je serais curieux de savoir dans toute l'équipe qui en ferait sauter. Franchement, je serais très...
Je vous rappelle que c'est un vote à bulletin secret, en votre âme et conscience.
Oh. Vas-y, on le fait. Juste pour le plaisir de la
Denis, est-ce que tu regardes la télé en dehors des émissions quand t'as la chance d'être en France? Qu'est-ce que t'aimes bien comme autre émission télé?
Mais je regarde pas beaucoup la télévision parce que j'ai pas franchement le temps. Mais toi, j'ai pas beaucoup le temps non plus. Je dis, mes enfants me disent, t'as vu cette série et tout? Tu vois, je prends beaucoup de temps dehors.
Plein de sport aussi.
Ouais, voilà. Ouais,
quand t'as du temps, je regarde pas. Faire le mettre là.
Je suis assez quand même addict à l'actu, à l'info en ce moment, t'imagines. Donc voilà, les reportages, les choses comme ça. Mais je regarde de temps en temps, et c'est pas pour te cirer les pompes, Danse avec les stars parce que ça m'amuse.
Quand tu tombes dessus, bah voilà.
Voilà, exactement. Et puis, je regarde pas énormément la télévision.
Ouais.
Parce que j'ai pas le temps, surtout. C'est pas parce que j'aime pas ça, mais parce que j'ai pas beaucoup de temps.
Et ben moi, je vais te parler d'un programme télé américain. Il date de 2004. Et je l'ai découvert il y a pas longtemps. Dans ce jeu télé, les candidats gagnent 100 000 euros s'ils arrivent à retrouver quelque chose. À retrouver quoi? Essayez de deviner, l'équipe. Denis, voilà ma question. Émission de télé, sortie en 2004.
Leur premier amour?
Non.
Oh, c'est pas mal.
Oh, t'es bon.
Ah, c'est pas mal.
Bon,
ah ouais.
Appelez TF1, moi j'ai pas le number, mais.
À mon avis, ils peuvent y aller là. Ils peuvent monter dessus là.
Pas mal.
Est-ce que ce serait un trésor? Un truc vraiment avec une vraie recherche, un peu comme ils font dans Koh-Lanta, boussole, machin. Il y a un vrai trek à faire.
Est-ce que c'est quelque chose qui les concerne personnellement?
Oui.
Oh, wow, est-ce qu'ils alignent plein d'hommes? Et ils montent les mains de plein d'hommes et c'est quelle main appartient à votre conjoint? Un truc comme ça?
Non, mais. Ils alignent plein d'hommes.
Hein? Ils alignent plein d'hommes.
Ils alignent plein d'hommes.
Votre père.
Il faut retrouver ton père biologique ou ta mère biologique.
Quoi?
Tu dois retrouver tes parents biologiques. Ouais. C'est terrible, hein. Ouais. Écoutez bien. Les candidats sont des enfants adoptés à la naissance qui ont jamais connu leurs parents biologiques. Et ils veulent les rencontrer pour la première fois. 8 papas potentiels dans cette saison-là. Et ils doivent les observer, poser des questions, éliminer les faux papas petit à petit. Si la candidate identifie le bon, elle repart avec 100 000 euros. Si la candidate se trompe, c'est l'homme choisi qui repart avec les 100 000 euros. Donc le pire dans tout ça, c'est que les hommes castés, eux, sont censés dire « Mais je te jure, c'est moi ton père. »
Eh ouais, c'est
parce
ça.
Que si elle y croit, non, ils prennent les 100 000 euros.
Mais surtout, si tu perds, on te dit quand même qui est ton père au final.
Oui, s'il prend les 100 000, si c'est lui qui a pris les 100 000, c'est que c'était pas ton daron.
Ah ouais. Oui, mais le vrai père, à un moment,
ouais,
on
mais
lui
regarde,
révèle.
Imagine, c'est un autre qui le prend. C'est-à-dire que t'en as 7 qui restent là et ton vrai père, c'est l'un des 7.
Et lui aussi, et les 8 se passent leur temps à dire « Mais crois-moi, c'est moi ton vrai père. » Pour essayer d'avoir les 100 000. Et si le père biologique, le vrai père est choisi, c'est la candidate qui gagne, ou le candidat.
Tu veux mon sentiment? C'est horrible. C'est horrible.
C'est terrible, hein.
Non mais t'imagines, là t'es là, et tu vois ce pauvre gamin qui dit « Ça y est, j'en suis sûr, c'est lui mon père. » Et tu te rends compte que absolument pas, tu vois.
Et tu le sais,
et
en plus.
Et que le mec, non seulement, donc, il doit avoir le désarroi de l'enfant, mais en plus, lui, il fait, yeah!
100 000! C'est clair. C'est terrible. Il y a eu qu'une saison, hein. Après, là-bas a dit, non, mais.
Voilà.
Toi, tu le découvres quand, le casting sur Koh-Lanta? Un peu avant ou vraiment quand t'es?
Non, alors, je ne vois personne avant. C'est-à-dire que la première fois que je les vois physiquement, mais je te jure, c'est le jour où ils arrivent. En revanche, j'ai des books qui sont très bien faits par la boîte de prod ALP avec des informations sur tous les candidats, c'est-à-dire leur dossier de candidature, ce qui s'est passé au casting, des photos, des vidéos, enfin leur niveau en sport, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, pourquoi ils veulent être aventuriers. Et c'est ça qui est marrant parce que comme je lis ça, que j'ai plutôt une bonne mémoire, quand je les vois pour la première fois, je suis capable, tu vois, non mais même pas ça, c'est-à-dire que Je commence l'émission, c'est-à-dire je ne leur parle pas en off. C'est tout de suite in. Mais au milieu du plateau d'intro, je fais une pause et là je vais les voir et tu vois, j'ai toujours un petit mot. Je dis alors ce nouveau métier de boulangère, comment ça se passe? Ou vos deux enfants, c'est pas trop compliqué de les avoir laissés? Et effectivement, les gens, moi ils me connaissent, mais ils sont persuadés que moi je vais apprendre à les découvrir comme les téléspectateurs. Or j'arrive, tu vois, ça je tiens ça de ma maman. Ma mère, elle était prof de maths et je me souviens. On a tous eu des profs qui attendent Noël pour se souvenir de ton prénom. Ouais. Et encore, tu sais, t'as la feuille coupée en deux où t'as mis ton prénom. Ma mère, elle me disait toujours, elle nous disait avec mes frères, moi, dès le deuxième jour, parce que j'ai placé les élèves à certaines places, j'ai des moyens mémotechniques, dès le deuxième jour, quand je les interroge, J'ai pas besoin de papier et j'ai leur prénom.
Tu sais le truc. Ouais,
et donc, moi, je trouve que c'est hyper important. Ça fait partie aussi du respect pour ces gens qui vont vivre une aventure incroyable mais très compliquée, que tout de suite, ils aient l'impression qu'ils
sont considérés.
Voilà, qu'ils sont considérés ils ont été castés, on les a choisis et on est content qu'ils soient là. Et comme on est content qu'ils soient là, eh bien, on leur apporte cette considération qui est indispensable.
Et est-ce que c'est vrai qu'ils se lavent pas du tout, du tout, du tout? Il y a déjà pas un sansodyne qui traîne, rien du tout, même pas les dents?
Non, mais non, il y a rien. Les dents, tu sais, c'est un petit bout de bois. Certains même faisaient ça avec du sable ou des choses comme ça. Wow. Mais non, il y a rien, vraiment rien. Tu te laves, tu te rinces dans la mer.
Il y a pas de caries et tout?
Bah écoute, tu sais,
il y a pas de sucre.
Tu l'as pas. Non, puis tu sais qu'en Europe, c'est 40 jours au maximum. Donc ouais. Tu vois, c'est quand même pas non plus, tu t'arrives pas avec des dents ultra bright et tu repars avec des chicots, ça existe pas ça. Hein. Heureusement, parce qu'autrement on diffuserait plus Koh-Lanta.
Il y aurait une petite odeur en fait. Non,
mais
ouais.
Oui, mais je pense qu'à force de puer, tu pues plus.
Non, mais entre eux, oui, mais lui dans son Algeco, il s'est douché.
Ça c'est bon ça. Ça pourrait être une phrase. À force de puer, tu ne pues plus.
Au bout d'un moment, ça s'annule. Là.
Non, mais entre eux, c'est sûr, t'as raison. Entre eux, ils ne se sentent plus. Mais non, toi, mais... Denis, tu peux les sentir. Ouais, mais je vais te dire, dès l'instant où ils ont réussi à faire du feu, l'odeur du feu prend le dessus sur toutes les mauvaises odeurs. Ce qui est bien d'ailleurs. Le stick up d'Airwick.
On avait ça.
Koh-Lanta, c'est le feu.
Chez les scouts, on avait ça aussi.
Ouais, chez ma grand-mère, elle se chauffait au poêle à bois. Je te cache pas.
Pareil, tu vois.
Tu en partais, tu t'en rappelais longtemps du poêle à bois. Eh les gars, vous êtes des sacrés aventuriers quand
Tiens, ils ont tous un sac à dos. Ils ont le droit de mettre quoi dans leur sac à dos? Ils ont un objet perso qu'ils ont le droit d'amener?
Non. Alors ça, c'est la première année. La première année, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et t'avais même un mec qui avait amené une guitare. Nono, il avait amené sa guitare, je me souviens. Mais non, mais donc on a arrêté ça parce que t'imagines le mec qui dit bah moi j'emmène ma Porsche 911. Enfin, ouais. c'est pas possible. Ouais. Mais non. Ils ont c'est très normé. C'est-à-dire, me demandez pas exactement, mais je crois qu'ils ont droit à deux t-shirts, un sweatshirt, deux shorts, un maillot de bain, deux paires de chaussettes, deux calbutes, deux paires de chaussures. Ça c'est sûr. Voilà. Et ensuite, libre à eux, tu vois, de prendre des choses. Qu'ils estiment être nécessaire pour ne pas dire indispensable pour une aventure comme ça, tu vois.
Et on disait tout à l'heure quand même, on spoil que ça, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez repris un gars qui nage.
Vous avez repris un gars qui ne sait pas nager dans
le si. Non mais, imagine, Camille, est-ce que tu peux imaginer la différence entre nager dans une piscine d'un bord à l'autre et te retrouver dans une. Où tu te dis, ok, on va sur l'île là-bas en face. Entre 4 et 600 mètres. Avec un peu de courant, des vagues, t'es habillé, t'as ton sac à dos, t'as tous les autres, tu sais que t'es pas un bon nageur. Donc là, si t'es déjà à 30%, bah, le stress, 20%, les habits, 10%.
Les requins,
le 5%. Non mais oui, et forcément.
Mais, et les premiers trucs, c'est de bien savoir nager. Tu vas faire 100% logique. Mais faut un peu de logique.
Oui, d'accord. Mais je sais, tu veux parler d'Ulrich, mais je te dis que Ulrich. Globalement, il sait nager. Maintenant, c'est pas un poisson dans l'eau. Et il s'est dit en plus, parce qu'il est malin, je vais essayer de me faire aider. Et puis, tu vois, de montrer tout de suite.
Je suis pas dangereux.
Je demande une forme de cohésion aux autres. Tu vois, dans ce naufrage, t'as toujours deux types de comportements. Soit tu dis, moi, je suis un super nageur. Et là, je vais leur mettre tout de suite grave. Et je vais partir à 200 à l'heure. Et j'arrive à être sur la plage tout seul. Et t'es sur la plage, il y a rien à gagner. Et t'attends un peu bêtement que les autres arrivent.
Disent,
et
puis
t'as tous les autres qui votent. Ah, j'étais avec Viviane, j'étais avec Martine, je les ai aidés. Et puis il y a Ulrich, j'ai porté son sac. Et forcément, ben, quand tu es dans la cohésion, quand tu es dans l'entraide, tu marques des points.
Bien sûr.
Et donc Ulrich, il le savait pertinemment. Il est beaucoup plus malin que vous ne pensez. Et c'est pas un si mauvais nageur que ça. Mais en revanche, il avait besoin d'être un petit peu cocooné. Vous verrez... il est gaillard, il est costaud et il a des attributs pour Koh-Lanta.
Ah, les mots. Ouais, on dirait une voix.
Mais oui, c'est ça. Il a des attributs pour Koh-Lanta.
Restez avec nous dans un instant. Joe, End of Beginning qui va arriver sur Énergie. On garde Denis Brognard avec nous. On a des jeux à lui faire faire. 0870-42-48. 0870-42-48. Vous nous appelez, vous passez en direct sur l'antenne et Denis vous offre un cadeau. Dans un instant, il vous fait gagner un cadeau. Restez avec nous. On est là jusqu'à 19h.
Et leur sentence est irrévocable.
Accompagne tous les jours entre 16h et 19h sur Énergie.
Bien sûr qu'on vous accompagne. Il y a Joe tout de suite, End of Beginning, et Denis Brognard est avec nous dans l'émission. Hey. On va jouer avec lui, j'ai plein de choses à lui faire faire. Bref, on est là jusqu'à 19h à vos côtés. Merci de votre fidélité tous les soirs, 16h-19h. Vous nous écoutez au travail, à la maison, dans la voiture. Vous passez quelques minutes avec nous, ça nous fait hyper plaisir.
On est votre rendez-vous 16h-19h chaque soir et Joe tout de suite.
Camille Combal, tous les jours de 16h à 19h sur Énergie.
On est en direct sur Énergie, on est avec Denis Brogniard, on applaudit Denis Brogniard. Denis Brogniard, Denis Brogniard de Koh-Lanta et plein d'autres trucs.
Eh mais tu danses vachement mieux qu'avant.
Ah, bah, bah,
non, mais là, c'est incroyable.
Payer, hein.
C'est incroyable. Mais bon, tu fais des solos même, c'est ça qui est génial.
Ah, bah tu sais, tu sais que je donne des cours du soir à Fovoto, moi. Moi, elle est un peu larguée, je suis obligé.
C'est vrai. Bah, si, si elle a besoin d'un petit partenaire.
Non, Denis, non.
Je l'aide. Hein. Alors, je voudrais que tu complètes mes phrases. D'accord. Tu vas voir, faut pas réfléchir, t'as 3 secondes max par réponse.
D'accord.
Je te donne le début de la phrase et tu la termines.
D'accord.
Ok, Denis.
Vas-y.
On parle de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, elle a démarré hier en grande trombe, ça se dit plus, en grande trombe, sur TF1 à 21h10, c'est tous les mardis. Est-ce que tu peux me donner, Denis, le numéro de téléphone le plus prestigieux que tu as dans ton téléphone? C'est celui de, je ne donne pas le numéro évidemment, mais c'est celui de qui?
À part le tien, je vois pas bien, quoi,
allez,
tu vois.
Ouais.
Non, je sais pas, d'un ancien Premier ministre, Gabriel Attal.
T'as le portable?
Mais ouais.
Ouais, c'est pas mal.
Ah, voilà.
Ah, ça ouvre des portes. Hein.
Et tu l'as appelé Gabriel Attal dans ton portable ou Gab?
Gabi? Non, Gabriel Attal. Mais tu sais, j'en avais plein parce qu'à un moment, ça c'est une petite histoire rigolote. À TF1, ils m'avaient donné un portable. Tu sais, on avait, quand j'étais salarié de la boîte, et c'était un portable qui avait appartenu à un grand dirigeant de la chaîne qui avait changé. Mais je te jure, j'avais des numéros de téléphone de dingue. Des artistes, des politiques. Je peux te dire que. Si j'aurais pu tu vois,
ouais,
m'amuser pas,
pas
mal. Non.
Bah maintenant, Yves Mourouzi et tout, bon. Bah.
Ouais. Et tu parles de gens, les gens ne savent même pas de qui tu parles.
Quand tu as appelé Sacha Distel, tu fais 16 ans apparemment. L'épreuve que tu préfères dans Koh-Lanta, c'est, est-ce que c'est une des épreuves cultes ou est-ce que c'en est toute une autre? Est-ce que c'est
l'orientation? Le parcours du combattant. Parce que je trouve que c'est un juge de paix, parce que c'est hyper dense, parce que c'est un moment où ils sont déjà faibles et où il faut franchir une dizaine d'obstacles, parce qu'il y a une course d'hommes et une course de femmes et ensuite une finale totalement différente, et parce que c'est l'épreuve qu'ils rêvent tous de gagner. C'est, voilà, tu veux marquer ton nom bien sur les combattants.
Le gagnant de la nouvelle saison de Koh-Lanta, c'est... Oui, c'est bon.
Un ou une aventurière de grand talent.
Une émission, l'émission que j'aurais adoré présenter, c'est...
Qu'est-ce que j'aurais aimé présenter, les émissions de Philippe de Dieuleveux à l'époque. Je trouvais que c'était formidable quand il était en salopette ou... Où il y avait une autre émission.
Moi, c'est quoi, il partait à l'aventure?
Mais oui, exactement. Et puis il y avait aussi
la. Il a disparu, non, le pauvre?
Bah oui, bien sûr. Sur un fleuve en Afrique. Non. Autrement, la course au trésor. C'était une des premières télé-réalités. C'était sur France Télé à l'époque où des jeunes reporters partaient aux quatre coins du monde et ils étaient jugés chaque semaine dans un reportage qu'ils faisaient. Donc, à la fin de l'émission, le présentateur, il a changé plusieurs fois, il disait, bah tiens, toi Camille, tu seras au Japon la semaine prochaine et toi, tu seras en Mongolie. Et tu envoyais, à l'époque, tu pouvais pas, c'était avec des moyens complètement différents d'aujourd'hui, et t'envoyais tes rushs, il y avait un montage qui était fait et on votait pour ensuite les spécialistes qui étaient autour de la table, et c'était une émission francophone, donc il y avait des Canadiens, des Belges, des Suisses, des Français, et c'était génial. Et chaque semaine, eh bien, celui qui recueillait la moins bonne note était éliminé et devait rentrer en France. T'imagines? Et c'était un moment
excellent,
mais c'était génial. J'adorais cette émission et j'aurais aimé d'abord y participer en tant que jeune reporter, mais là, bon, il faudrait que je revienne en arrière, et puis ensuite peut-être en tant que présentateur.
Bien sûr. Mon candidat préféré, toute édition de Koh-Lanta confondu, c'est...
Je ne réponds pas à cette question, mais je vais quand même répondre quand même, parce qu'il y en a un, et puis paix à son âme, il n'est plus là, c'est Bertrand Camel. Il n'a pas gagné Koh-Lanta, mais je trouve que c'était la quintessence même de la générosité et du partage. Et pourquoi? Parce que ce type, il avait un petit quelque chose en plus. Il est parti malheureusement à 30 ans de cette saloperie de cancer du pancréas, mais un papa marocain, une maman bourguignonne, Bertrand Camel, il a pris le bon de partout, et ça a fait un mélange absolument détonnant avec une tolérance incroyable. C'est ça qui m'a toujours fasciné chez ce garçon, qui a perdu une épreuve éliminatoire et qui avait pourtant une autoroute pour aller gagner Koh-Lanta. Mais voilà, il restera dans mon cœur très fort.
Et je sais que vous continuez de vous mobiliser avec la famille et tout.
Bien
ça
sûr.
Pour la recherche.
Le fonds pour Bertrand Camel, on a déjà récolté près de 2 millions d'euros. Ces 2 millions d'euros ont permis de faire avancer la recherche, notamment sur le dépistage, c'est-à-dire être capable de tester les gens dont certains membres de la famille ont été victimes d'un cancer du pancréas. Et si on prend ce cancer bien en amont, eh bien on le soignera mieux. Pourquoi aujourd'hui le cancer du pancréas, c'est l'un des plus meurtriers ? Parce que il commence à provoquer des douleurs au stade 3, voire au stade 4. C'est déjà trop tard parce qu'il y a déjà des métastases un peu partout. Si on arrive à le détecter au stade 1, voire au stade 2, alors on en soignera plus.
C'est comme le cancer colorectal. Il y a une campagne en ce moment. Ouais. Du boss, qui a une cogendie et tout. Parce qu'il faut se faire dépister. Exactement, on va chier. Parce qu'il faut se faire dépister parce qu'il n'y a pas de signe avant-coureur. Parfois, une fois qu'on se fait dépister, le grade est déjà très avancé.
C'est vrai.
Donc faites attention. Faites-vous dépister si vous êtes dans l'âge et puis même avant, si vous avez l'occasion. Mon surnom quand j'étais petit, c'est...
Mes potes m'appelaient Big D ou Don. Enfin voilà, Don surtout. Non, Big D c'était un autre pote qui était avec nous. Don, voilà.
Pourquoi Don?
Don parce que Don, Denis. Mais je me souviens surtout d'un, je me souviens surtout d'un voyage que j'avais fait. Ça m'avait fait marrer parce que certains ont gardé ça. J'étais à Cuba. Et j'étais dans une petite voiture et je prends en stop un Cubain qui n'était jamais monté dans une voiture.
C'est quoi cette vie de fou là?
Cuba, on est dans les années 90, donc tu vois, ça remonte. Et je me souviens que ce gars-là, j'avais, tu sais, une petite Jeep un peu cabrio. Et le gars était derrière, il n'était jamais monté dans une voiture. On était dans la forêt en allant dans le sud de Cuba. Et ça montait, ça descendait. Et d'un seul coup, il avait pas retenu exactement mon prénom, mais d'un seul coup, il a eu besoin, si tu veux, d'évacuer tout ce qu'il avait mangé parce que il se sentait mal. Et là, il m'a pris l'épaule, il m'a fait Donny.
Et c'est resté
un petit peu.
Donny, c'est pas mal. Hein,
voilà, mais il y a eu aussi Thierry Brouillard, tu sais, pour Denis Brognard. Enfin, il y a eu plein de trucs.
Il y a eu plein de surnoms, quoi.
Voilà, exactement.
Évidemment. Dans un instant, on va faire le deux vérités, un mytho. De vérité à mytho. Ouais. Grâce à toi, quelqu'un va peut-être gagner un très beau cadeau. Tu vas nous donner 3 infos sur toi. Ouais. 2 seront vraies, 1 sera fausse. À nous de retrouver la fausse. Celui qui trouve, si on trouve la fausse, vous repartirez soit.
Mais vous avez le droit de me poser des questions ou pas?
Ah ben c'est pas pour la cuisine, mon pote. Prépare-toi.
Aïe.
Ah bah oui. Mon pote, c'est parti.
Je sens que ça va être dingue. Ça va être.
Je suis une tombe.
3 infos de fou.
Je vais faire comme les mecs, tu sais, qui essayaient de retrouver leur père biologique. Là, je vais dire n'importe quoi. Je vais essayer de vous balader, les amis.
Après, je te cache pas qu'on a quand même pas 100 000 balles à offrir.
Ah bon, d'accord. Bon alors, je vous baladerai un peu moins.
T'embêtes pas trop quand même.
Calvin Harris, Feel So Close. Denis a voulu absolument écouter ce morceau. Je peux vous dire, alors là. Aux Philippines, dans toutes les boîtes, là, il était là-dessus. Denis, il faisait la fête sur Calvin Harris. On écoute ça tout de suite sur Énergie. Belle après.
Camille Combal, tous les jours de 16h à 19h sur Énergie.
Bienvenue à tous. C'est bon de entendre ça, le petit Calvin Harris là. Il fait plaisir comme tout. Merci d'être là en direct avec nous sur Énergie. On a plein de messages aussi qui arrivent sur les réseaux. Et je sais que c'est des choses qu'on doit demander dans la rue tout le temps. Denis Brognard est notre invité ce soir. Les gens, ils disent. Il y a plein de gens qui rêvent de faire Koh-Lanta.
Ouais.
Est-ce que tu peux, au-delà de, bien sûr, tous les ans, le casting est relancé quand il y a une nouvelle saison, c'est quoi les critères pour être sélectionné à Koh-Lanta ? Alors, moi, je suis pas très sportif. Est-ce que je peux arriver à Koh-Lanta ?
Bien sûr. En fait, il faut être le plus naturel possible dans ton dossier de candidature. Faut pas raconter d'histoire. Et puis, il faut essayer de mettre en avant ta personnalité. Et avant d'être un sportif ou un stratège ou ce que tu veux, il faut qu'à travers ces quelques lignes du dossier, tu fasses comprendre que t'es hyper motivé, que t'as envie d'y aller plus que tout et que cette espèce de conviction absolue, bah, ça te donne un avantage par rapport à d'autres. Mais ensuite, bah, il faut être un peu sportif, c'est vrai que c'est pas mal. Il faut avoir envie de faire un peu de stratégie, c'est souvent essentiel. Il faut au moins...
Faut pas trop bien nager, c'est important.
Non, mais la survie, c'est aussi important. Enfin, tu vois, si tu sais faire un peu du feu, si tu sais faire une cabane, si tu sais un peu te débrouiller...
Mais il faut tout. Mais il faut ceux qui savent bien faire et ceux qui savent
faire. Ouais, mais tu sais, comme dans un cocktail, il faut mettre la bonne dose de chaque élément, de chaque ingrédient, pour qu'à l'arrivée, ça puisse être un cocktail détonnant.
J'ai un pote à moi qui rêve de le faire. Est-ce que quelqu'un qui a candidaté 7-8 fois, il a encore une chance de faire la saison prochaine?
Chaque année, tu as des gens qui ont candidaté parfois 8, 9, 10 fois. Quand t'es pas pris, ça veut pas dire que t'es pas bon ou que tu corresponds pas. On a 25 000 demandes, on prend 20 candidats. Il y a même pas 1 sur 1000. Mais ce que je dis toujours, c'est comme pour le loto.
C'est Sciences Po.
100% des gens qui ont été pris ont tenté leur chance. Donc, tentez votre chance, gardez la grinta et un jour, potentiellement, ça peut fonctionner.
Est-ce que c'est vrai que tu testes les épreuves ?
Ouais. Alors, je les teste pas toutes chaque année, mais je les ai quasiment toutes testées au moins une fois parce que j'adore ça, parce qu'on se fait des petits défis entre nous, parce que c'est bien aussi de se rendre compte de ce que vont vivre les candidats. Tu vois, je te parlais du parcours du combattant. Eh bien, alors là, j'ai un petit peu vieilli, mais à une époque, je me souviens, je disais, mais attends, là, c'est trop dur, on n'arrivera pas sur la palissade. Et on l'a testé. Et tu vois, ça nous est arrivé de remettre une petite barre, tu vois, horizontale pour réduire la distance pour aller jusqu'au.
Il faut les tester pour ça.
Voilà, il faut les tester. Alors, on a des testeurs qui font ça et qui correspondent un peu à ce qu'on a avec nos candidats. Mais moi, j'adore le faire et j'adore me rendre compte de ce qu'ils vivent et des difficultés de certaines épreuves. Le cochon pendu, je peux dire que quand il descend, même après 20 minutes, t'as les épaules en vrac, donc t'imagines ceux qui restent 3 heures.
Ouais, bon, ça tu peux le tester dans le parc de mon fils à côté. Hein.
Ouais.
Obligé d'aller aux Philippines.
On va faire un test tous les deux. Alors,
allez.
On va faire un défi.
Est-ce que t'as des souvenirs de tournage chez toi? Genre t'as un totem, d'immunité à la maison?
Ben mais oui, les totems, il y en a plusieurs. Ça, en fait, depuis que j'ai eu une idée un jour, je me dis mais pourquoi je prendrais pas l'un des deux totems chaque année? Et c'est ce que je fais. Et voilà, c'est un souvenir.
Bien sûr.
C'est pas un truc que j'affiche chez moi, etc. Mais j'aime bien. Je suis incapable de dire que c'est telle ou telle saison, mais voilà, c'est quand même l'histoire de ma vie. 25 ans là, bientôt, te rends compte, un quart de siècle de présentation de Koh-Lanta. Donc voilà, c'est quelque chose qui est constitutif de mon existence et le totem, c'est le symbole de Koh-Lanta.
Et la nouvelle saison, elle a commencé hier. C'est l'année de la poterie, c'est les reliques du destin dans Koh-Lanta. C'est tous les mardis soirs. Dans un instant, on joue avec vous, disponible en replay. Hein. On veut pas trop vous spoiler, vous l'avez compris. Hein. On parle de l'épisode d'hier, mais on reste vague parce qu'on n'a pas envie de vous gâcher le plaisir.
On
ne
dira pas qui a été éliminé.
Voilà, il y a plein de personnes qui rattrapent. Bien sûr, plein de personnes vont encore rattraper l'émission d'hier, donc on n'a pas envie de vous la gâcher. Mais en tout cas, on parle de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Et puis surtout, on vous fait gagner un cadeau dans un instant grâce à Denis. Petite pause et on joue aux deux vérités, un mytho en direct sur Énergie. À tout de suite.
Finissez vos journées avec Camille Combal. Tous les jours, entre 16h et 19h sur Énergie.
On est avec vous. Et on est en direct sur Énergie, il est 18h43. Eh oui. Denis Brognard est notre invité ce soir, il nous fait ce plaisir, merci Denis.
Merci de votre invitation, c'est un bonheur vraiment d'être avec vous ce
entre
soir.
Entre deux Koh-Lanta, entre un planning serré, il revient tout juste de Marrakech, il va bientôt retourner, on a la chance d'arriver à t'attraper dans le studio et ça nous fait hyper plaisir. La nouvelle saison de Koh-Lanta a démarré hier, rassurez-vous, ne zappez pas, j'aurais dû vous le dire avant, on spoile pas l'épisode d'hier.
Ah bah non.
J'aurais dû le dire direct. Des gens sont partis en mode, ils vont me griller des trucs, je veux pas.
Non.
Promis, on grillerait, hein, c'est pas le genre de Denis.
Ah non. Je peux dire que si tu dis quoi que ce soit qui peut griller quelque chose, je hurle en même temps. On t'entendra plus. Hein.
Tu continues les débriefs sur ton Insta avec les sortants?
Non, je le fais plus, mais on le fait différemment. C'est-à-dire que je fais le débrief sur place là-bas et c'est sur TF1+. Tu vois, avec une... Et c'est bien aussi les candidats, c'est quand tu perds et que t'es éliminé, tu prends une vraie claque. Donc on refait un peu le match, si je peux m'exprimer ainsi, et on discute, on prend un peu de recul et c'est un moment un peu particulier, hors du temps, dans la nuit, juste après le conseil, tout le monde est parti. Il y a une caméra qui est là et puis voilà, on discute. Et puis cette discussion, eh bien, vous pouvez la découvrir sur TF1+.
Ouais, puis TF1, ils ont dû se dire, t'es sympa avec ton Insta, mais.
Je vais te dire, même pas. Mais je trouve que la caisse de résonance est plus importante, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, et puis souvent, tu sais, je suis en tournage, avec le décalage horaire, tu dis, mais attends, je peux pas, puis le candidat qui dit, mais non, mais moi, je peux à 5h30, pas à 5h. Bon, c'était compliqué. Là, on le fait sur place. J'ai le candidat, je suis là, il n'y a pas de problème.
Il y a Aline qui est avec nous, je voudrais te la présenter. Bonjour Aline.
Bonjour
Aline.
Aline, je te présente. Bonjour. Denis, Oriane.
Salut Aline.
Rémi. Salut Aline.
Tu fais quoi dans la vie Aline?
Je suis infirmière anesthésiste.
D'accord, un beau métier. T'es en hôpital, donc à Brest, c'est ça?
Oui, ouais, c'est ça.
On en a 8 des infirmiers anesthésistes sur Koh-Lanta.
Ah bah justement, ça faisait partie de la question que je voulais poser.
Je m'occupe pas du recrutement malheureusement de l'équipe médicale, mais tu envoies ta candidature.
Ok, bah oui, bah avec plaisir.
Bah tu feras peut-être la prochaine saison, Aline.
Bah attends.
Bah ce serait top. Avec plaisir.
Aline, nous on va peut-être t'offrir un cadeau, figure-toi.
Ah bah avec grand plaisir aussi.
Elle est trop mignonne Aline parce qu'elle a vraiment appelé pour te parler et du coup elle s'attendait pas, bah elle va pouvoir gagner un cadeau maintenant grâce à toi ou le perdre à cause de toi. C'est ça qui est beau.
Ah là, Aline, on va tout faire pour que tu gagnes le cadeau.
Non, toi t'es.
Merci.
Toi tu joues ton rôle, tu nous donnes trois anecdotes.
Il y en a deux vraies et une fausse. Ouais.
D'accord.
Exactement.
Fais bien, sinon je dis qui est sorti hier. Deux vérités, un mytho, trois anecdotes, on t'écoute et ensuite on devra essayer de deviner. Nous on ne sait pas non plus Aline, on essaiera de t'aider, on devra deviner laquelle est le mytho. Okay.
Alors, la première anecdote que j'ai envie de vous raconter, c'est que j'ai rencontré ma femme sur le tournage de Koh-Lanta. Ça c'est la première. Alors est-ce que vous voulez me poser des questions par rapport à ça ou je vous donne les trois?
Au niveau des cheveux,
à l'époque,
alors attends, ça aurait pu.
C'était femme... pour quelle saison du coup?
Ah, c'était en 2003, à Bocas del Toro, au Panama.
Oh, c'est précis.
Oh, c'est précis. C'est presque trop précis.
Presque trop. Quelqu'un qui avait embarqué dans l'équipe ou une panaméenne?
Alors, non, une bonne française, voilà.
Qui était partie dans l'aventure Koh-Lanta.
Qui bossait dans la prod, quoi.
Qui bossait candidate.
Avec moi, évidemment. Voilà. Non, pas candidate.
Bon, ok, ça tient la route.
Ok.
Ok, mm-hmm. C'est une première info. Mm-hmm. Je me semble que je le saurais, je le sais pas.
Oui, c'est pour ça.
Je me dis, mais attends, ça saurait ce truc-là. Bon, on va voir.
La deuxième anecdote.
Ah oui, s'il te plaît.
La deuxième anecdote, c'est sur ma première saison de Koh-Lanta en tant qu'animateur au Costa Rica. Et à ce moment-là, c'est mon premier plateau et c'est ma première émission de divertissement. J'accueille les équipes, je suis dans un camion, puisqu'il n'y a pas de naufrage aquatique, on est dans un vieux camion, baroudeur. Je suis avec les candidats, je descends, et là, je leur dis, allez, mettez-vous là, prenez vos sacs, toi t'es rouge, toi t'es jaune, les rouges, vous passez par là, les jaunes, vous partez par là. Premier plateau, t'imagines le stress, c'est fini, mes candidats sont partis. Et là, on vient me voir, pour ne pas le nommer, Franck Firmin-Guillon, qui à l'époque... Et à TF1. Avant de diriger ALP, il était responsable des programmes de flux à TF1. Il me dit, on a eu un petit problème, Denis, on n'a pas enregistré.
Oh mon Dieu.
On n'a pas enregistré.
La première, faut refaire.
Voilà, c'est la première, faut refaire. Donc moi, il faut que je revienne. Il faut que les candidats reviennent. Il faut, imagine, faire un truc. Les candidats, ils savent qu'ils sont jaunes, qu'ils sont rouges. Et comme c'était ma première saison, il y en a qui me connaissaient même pas. Donc dans le camion, ils pensaient que j'étais un candidat comme eux. Sauf ceux qui me connaissaient comme journaliste de sport. Donc, on a refait. Et franchement, je dois saluer le talent de comédien, parce que c'est la seule fois que ça nous est arrivé, mais des candidats qui... Oh, je suis jaune, c'est génial, et toi tu...
voilà. Ils l'ont joué.
Ils ont rejoué.
Et franchement...
Ça peut être vrai, ça.
Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième anecdote.
Ça peut être vrai. Puis à l'époque, j'imagine, cassette encore. Donc, c'est en mode... Ça a pas
exactement.
Tourné.
Bah ouais, exactement. Cassette, et on avait une régie dans un camion. Après, puisqu'on était au milieu de la pampa.
Le mec qui a pas enregistré, il a fait qu'une saison, je te le dis. Donc.
Ça a été court, Koh-Lanta, pour toi, Jean-Louis. Ouais. Pour toi, Jean-Louis, on t'a déjà booké l'écho plus. Hein. Allez, bisous.
Tu nous diras, t'atterris à Ronny sous bois dans 4 ans.
Allez, bonne soirée. Ok, peut-être. Et la troisième anecdote.
La troisième. Alors, je vous parlais tout à l'heure, mais vous savez que je suis sportif, que j'aime les défis, que j'aime la compète. Et quand je teste les épreuves, j'aime bien m'illustrer. J'aime pas faire de la figuration et qu'on puisse dire « Hey, Denis, sur les poteaux, il est resté 5 minutes ». Non, j'ai tenu, à l'époque où on a changé les poteaux et vous savez, où on les a fait de plus en plus petits à partir d'un certain moment, j'ai tenu plus de 3 heures sur le poteau dans un défi que j'ai fait avec le réalisateur. Et j'ai gagné ce défi en tenant 3 heures et 7 minutes et en me rapprochant du record qui est tenu par Amel. Avait réussi ça en gagnant Koh-Lanta.
J'espère que tout est vrai dans ce que tu dis, parce qu'en tout cas, de savoir rien que t'as fait l'épreuve des poteaux, et en fait, on en parlait tout à l'heure, donc dire que t'es monté sur ces poteaux midi.
Bien sûr.
C'est bien l'épreuve que j'aimerais tenter un jour de voir ça, même si je dure 20 minutes, mais d'essayer les moments où on retire des petits morceaux. Et j'adorerais essayer.
Et j'ai réussi à tenir, ce qui est quand même très dur, sur le carré de 10 cm, j'ai réussi à tenir 7 minutes. 7 minutes sur ce carré de 10
sachant que il est bon,
mais surtout que attends juste, pardon, excuse-moi, Aurélien, ta pointure c'est combien, Denis?
C'est du 45.
Tu vois le délire, 45 sur 10 cm.
Ouais, mais l'équilibre ne dépend pas, tu as des garçons avec des grands pieds, des filles avec des petits pieds, ou l'inverse, etc., qui ont gagné Koh-Lanta.
L'équilibre, c'est l'équilibre, hein.
Voilà, je pense que la coquille se situe, à mon sens, au niveau du timing des poteaux. l'info des poteaux est fausse. Au niveau ou des timings, ou c'est pas face au réalisateur, ou il a perdu. Je pense qu'il y a une coquille numérique là-dessus et que les deux premières sont vraies.
Après, ça dépend de qui est le réalisateur. Parce que je connais quelques réalisateurs télé, ils tiennent pas trois heures sur eux. Se cache pas.
Ouais, mais là, notre Canadien volant, je peux vous dire, Francis Côté, il était très très fort et il aime plus que tout la compète. Et on avait joué un grand cru de Bourgogne, voilà, sur cette cette compétition.
D'où les 3h07, ouais.
Voilà, exactement.
Aline, est-ce que t'as une idée déjà, et ensuite on va te donner la note, mais déjà, est-ce que toi t'as une idée sur quelle serait la mytho?
Bah, je suis assez d'accord, je pense que la troisième, sur le temps, ça me paraît énorme, 3h, donc j'ai plus un doute sur la troisième.
Alors, sache, Aline, que le record est de pratiquement 4h, hein.
Non mais moi tu sais pas, enfin peut-être que tu sais pas, peut-être que tu sais Aline, mais Denis va me dire non, mais c'est un grand sportif, un immense sportif.
Ah non, mais
on fait du sport au quotidien, tous les jours il fait du sport, donc je me dis quand même il a un truc, et puis il a la gagne, il veut pas lâcher, c'est ça.
Je remets pas en question tes performances physiques.
Non, rien, je suis à deux doigts de me vexer.
Non, Denis, je trouve que
tu disais hors antenne, il est grotesque. Il disait il y a pas 5 minutes hors antenne.
Je dis Oriane, dans quelques secondes on se retrouve chaque sur un pied, et on va voir qui.
Sur un pied.
Et là, d'un seul coup, Camille qui dit il est 23h10, ils tiennent encore tous les deux.
Non, je la trouve très chiffrée. Moi, je suis toujours très sceptique quand on chiffre, on surchiffre une info.
Et moi, je suis un journaliste de sport au départ.
Et
donc,
il s'énerve.
Quand je donne le record du monde du 100 mètres, c'est au centième près. On va pas.
Moi, je suis d'accord. Moi, je suis certain que c'est vrai. Puis tu sais, quand t'as fait l'épreuve des poteaux, que t'es presque arrivé au record, tu sais à la minute à combien.
Ça m'a énervé de pas le battre.
4 heures.
Ok.
Est-ce que
Attends, Aline, je te mets dans un mur. Hein.
Et sa femme. Pourquoi on revient pas sur sa femme? Pourquoi ça serait
femme.
Non mais attendez.
Ah moi j'y crois 100% à cette histoire. On se rend compte tous au boulot.
Ok, bon.
Oriane, c'est une romantique.
C'est dur.
Et la seconde, c'était. Ah oui, oh, trop drôle, faut que ce soit vrai.
Costa Rica?
Oui, l'enregistrement raté.
Ah, mais oui, mais encore. Donc c'est trois vrais pour nous, là. Ah non, toi, c'est les poteaux. Bon, allez, Rémi, tu dis que c'est laquelle la fausse?
Sa femme.
Je reste dessus. Moi aussi, je pense que c'est
ma femme est vraie, pourtant.
Oui, non, mais. Je pense pas que tu l'as rencontrée sur Koh-Lanta, je ne sais pas pourquoi.
Moi, je dirais que la fausse, c'est les poteaux avec une petite coquille dans les infos.
Bon.
Et Aline, elle en pense quoi?
J'ai un gros doute. Hein. Franchement, vous m'aidez pas beaucoup. Finalement, personne n'est d'accord.
Franchement,
c'est Aline, faut y aller. Faut sauter. Notre émission,
faut sauter à l'autre.
Je dis que c'est la 3, la fausse.
Ah, je suis sûr. Je suis sûr que t'as pas bien fait l'écouteur, Yann. Je te pose une première question. Est-ce que oui ou non, ton premier plateau de Koh-Lanta dans l'histoire, il y a eu un problème, il n'a pas été enregistré?
La réponse est oui.
C'est une vraie histoire.
Oh, l'enfer.
Ah, l'enfer.
C'est vrai.
Oh, l'enfer.
C'est vrai.
Et on y retourne.
Tout ce que je vous ai raconté, au millimètre, ça s'est passé comme ça.
Tout le monde a rendu son bandana, c'est bon.
Pensez bien. Donc, c'est ma première saison. J'ai jamais fait de divertissement. J'ai fait des apparitions dans le journal de 20h, dans le journal de 13h, dans le monde du sport. Mais donc, j'étais dans je vous raconte l'histoire jusqu'au bout. On est dans ce camion, un peu un camion militaire, on est secoué comme ça. Et donc, on se parle pas. Tout le monde stresse, tu vois. Et à ce moment-là, il y avait eu une petite indiscrétion comme quoi ça pourrait être la gaffe, le nouvel animateur de. Et donc, je vous jure que c'est vrai. Donc, finalement, ils se disent, putain, c'est qui ce grand con, le nouvel animateur? Donc, je fais le truc. Mais comment on se retrouve après? Comment on se retrouve dans le camion? Là, il me pose des questions. Il me dit, mais c'est toi l'animateur? Et t'as un mec qui me dit, oh ouais, bon. C'est sympa, mais enfin, nous, on nous a dit que c'était la gaffe, quoi. Tu vois? Et donc, ensuite, tu vois, quand je descends, lui, je m'en suis occupé personnellement. Non, donc ça, c'est vrai.
Donc, c'est vrai. Et la deuxième question, est-ce que, oui ou non, tu as rencontré ton épouse sur Koh-Lanta?
Mais évidemment, j'ai rencontré mon épouse sur Koh-Lanta.
Donc, le faux, c'est les poteaux?
Mais bien sûr que c'est faux, les poteaux! Bravo, Oriane, et bravo, Aline. Parce qu'Aline était d'accord.
Merci, Oriane.
Ouais, mais Oriane, elle a dit, il y a une petite coquille. Tout est faux. Je suis nul.
Je suis
nul en équilibre. J'ai testé les poteaux, mais je ne peux pas tenir ne serait-ce qu'un dixième de seconde sur la dernière partie de 10 cm. C'est impossible. Donc voilà, mais tout est faux.
Je me suis fait avoir. Et alors, on peut te demander que la rencontre comment, c'est-à-dire ton épouse, elle faisait quoi sur l'émission?
Elle était journaliste. Voilà, on s'était croisé 2-3 fois à LCI et puis elle est venue et puis aujourd'hui c'est la maman de mes 3 filles.
Oh, voilà. Exactement. Mais Atlanta a marqué ta vie et marque.
Ah ben, mais c'est, ça marque énormément ma vie, oui.
Fou.
Elle fait plus ça maintenant.
Non. Mais elle vient me voir quand même sur chacun des tournages.
Ah oui, c'est bien sûr. Il s'arrange. Et s'il veut faire une soirée entre mecs, il est obligé d'avoir un collier d'immunité. Bon. Bah, désolé, chérie, c'est sans jouer à les copains.
Bon, et on s'est vu il n'y a pas très longtemps dans une soirée. T'aurais pu lui poser la question, ma femme, d'ailleurs.
C'est vrai, j'aurais pas cru. Aline, en tout cas, toi, tu gagnes.
Bravo, Aline.
Grâce à Denis Brognard.
Oh, mais c'est super. Merci beaucoup. Merci toute l'équipe. C'est super.
Bon, et Aline, grâce à Aurélien, pas grâce à nous.
Bravo pour le cadeau et ma sentence est irrévocable. Je t'embrasse.
Merci, Denis.
On t'embrasse, Denis. Merci mille fois d'être venu nous voir.
Merci à vous. Merci. J'ai passé un super moment. C'est sympa, c'est détendu. Ça fait du bien.
Ah ben, c'est très gentil. Merci. Nous, on a eu beaucoup de chance de t'avoir. Franchement, ça nous a fait plaisir. On a plein de messages. Tous les gens étaient contents d'entendre aussi un peu les coulisses de Koh-Lanta. On a toujours envie d'en savoir plus sur cette émission culte qui est de retour le mardi soir, 21h10 sur TF1. Et bien sûr, vous me poncez ça sur TF1+.
Exactement. Les reliques du destin.
Les reliques du destin.
La saison des poteries, comme tu dis. Mais attention, ne faites pas ça avec vos poteries à la maison, hein, puisqu'on ne casse pas les poteries à la maison.
Elle est pas cassée. Non.
La soupière de la grand-mère, on la laisse tranquille.
Exactement. Je vous embrasse.
La saison des soupières. Merci Denis. On met un petit dernier disque. Que Black Franklish. On vous dit au revoir juste après. On est sur Énergie en direct avec vous.
Camille Combal. Tous les jours de 16h à 19h sur Énergie.
Il est quasiment 19h et on est sur Énergie. On est en direct, bien sûr. On va vous dire au revoir. Et on va vous dire à demain. Tout simplement sur Énergie avec l'équipe et regardez qui est avec nous dans le studio.
Et bonsoir tout le monde.
Non mais attends, mais regarde, non mais Louis la brocante, il passe une tête.
Alors non, attendez, j'ai eu des plaintes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des plaintes de votre équipe. Apparemment mon collègue Charlie ne monte plus.
Mais non. Oh,
Charlie, je sais pas s'il nous entend là, Charlie.
Salut mes chippies.
Bah là.
Alors Charlie, avec qui tu fais le super show, bien sûr, à partir
exactement
de 22h.
Tout à l'heure,
avant,
à 22h.
Il venait dans le studio, il venait dire bonjour à tout le monde, maintenant il reste dans son studio.
Même je crois comprendre qu'il venait aux soirées, il venait aux apéros, là il n'y a plus rien.
Ah non, il n'y a plus rien.
Bon, donc je me suis dit à un moment, je représente quand même l'équipe du super show, faut que quelqu'un représente.
Mais nous, merci Louis.
Ouais, voilà. C'est sympa. Ah ouais. Donc bien à partir sûr de maintenant, je serai là tous les soirs à 19h.
Eh ben Louis, tu sais quoi, à partir de peut-être les prochains jours, dès qu'on refait le jeu de l'injustice, c'est toi qui représente le super
avec
show.
Avec grand plaisir.
Ah ouais.
Pas mal.
Et tu ouais, remplaces... vous allez voir, il est brillant aussi. Hein.
Tu remplaces un peu Charlie, je crois qu'on a fait le tour.
Oui. Mais vous avez pas marqué, Charlie, quand il vient, on n'a plus rien à se dire. Donc on se demande 3 fois si ça va, t'as fait quoi hier soir?
On n'a plus rien. Ouais.
C'est hyper ouais vexant.
Il nous entend, voilà, il est là. C'est important quand même.
Et c'est un bar.
Après, il monte plus, tu vois. Ça reste un duplex énergie, il y a un escalier à monter, tu peux passer une tête. Non, mais c'est vrai qu'il vient, il passe 2 secondes, il fait le jeu avec nous et il a tendance, Charlie, tu le sais. Il parle un peu mal à tout le monde.
Ouais. Il est taquin.
Je sais pas si on appelle ça taquin, Cam. Tu vois, je veux dire.
Hein, parfois, il met des pichelettes dans la nuque des gens quand ils sont assis.
Il est un peu bully, Louis.
Oui, il aime bien retirer les chaises aussi quand tu t'assois.
Il est comment dans l'équipe avec toi?
Nous, il est adorable avec nous. Parce qu'il y a Marie, il y a toute l'équipe. Tu vois, nous, c'est la famille.
Ah, bien sûr.
Et vous, je pense que. Non, mais il s'est passé quelque chose. Faudrait que vous en parliez, je pense.
On est la femme, on est la belle famille, nous.
C'est ça.
Il arrive en traînant des pieds pour manger le gigot d'agneau dimanche.
À mon avis, il va falloir. Faut briser la glace, je pense. Faut faire une discussion, un apéro-discussion, quelque chose.
Une intervention. Pourquoi tu montes plus, Charlie?
Mais vous savez, quand il y a les invités, il y a trop de monde et ça me gêne, j'ai pas envie de déranger.
Ah, timide, ouais.
Ah, pourtant, j'adore Denis Brognard en plus.
Ouais. T'es moins timide avec Sean Paul, hein? T'es sympa, Sean Paul, vous avez Sean Paul.
Ah oui, d'ailleurs, on vous a emprunté le studio, on vous a pas prévenu, ça vous a pas dérangé?
On a rien senti.
Il y avait une petite odeur en fin de soirée, mais bon, ça va.
C'est normal.
Non, petite odeur, Sean Paul, hein, que t'es arrivé. Ouais! Ouais, ouais, ouais. Ouais, petite odeur.
La bédave?
Voilà. Non,
c'est pas parce qu'il s'est vraiment concentré à pas dire le terme.
Moi, je dis pas, moi. Mais non, très sympa, il était adorable, il a trop rigolé avec nous, il avait son concert et tout, c'était génial. Franchement.
Et Charlie était sympa.
Charlie, il a fait une petite tape sur la nuque aussi. Le gars a rigolé, Asher, donc ouais. Ouais, ça serait Asher, ouais.
Asher. Bon, alors il a hitlist, alors c'était qui le premier hier? Est-ce que tu sais, Louis? T'as écouté un peu l'émission de tes potes?
En fait, normalement, je suis censé savoir le premier. Parce que quand on commence le super show, c'est le premier qui termine.
Ouais.
Mais je t'avoue que ça m'a pas marqué.
Oh, c'était qui le premier hier soir?
C'est Blaster Jax, non?
Ouais. Blaster Jax, le remix de Rihanna.
Et ça peut être Blaster Jax ce soir aussi.
Ça serait dingue.
Bien sûr,
ce serait fou. Ça serait ouf.
Toi aussi, tu vas écouter jusqu'à 22h pour savoir.
Des fois, je vous cache pas, je triche un peu, je mets juste un peu avant, je commence au top 4, top 3.
Ouais,
tu vois,
c'est le dernier truc.
Non, mais
ouais,
quand je veux, genre, voir mon enfant grandir. Mais souvent, j'en ai rien à foutre de mon enfant et je suis hitlist, quoi.
Et lui te dit, papa, est-ce qu'on peut écouter la hitlist?
Des fois, j'ai mon petit et il me dit, ouais, est-ce que je peux jouer avec ce couteau? Je dis, fais ce que tu veux. Moi, j'ai pris sur la hitlist. Pour l'instant, je suis au numéro 17.
Bien sûr.
Des fois, il en reste 16, hein.
Fais le podium de fin, t'es bien, tu vois, tu fais les trois derniers.
Les trois, le top 3, voilà.
Bien sûr.
Bien sûr.
Charlie.
Ouais.
On te fait un gros bisou, mon pote. Hein.
Bisous, oui, la famille.
Et
bisous,
et on Charlie. Vous souhaite de passer une bonne soirée avec Marie et Louis. Hein.
Bien
Qu'est-ce
sûr.
Qu'il y a dans le Super Show ce soir?
Charlie, il y a quoi dans le Super Show ce soir?
On va parler de plein de choses, on va rigoler. Hein.
Camille, tu sais très bien depuis le temps que tu fais de la radio que quand on répond cette phrase, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va faire encore.
On ne sait pas, bien sûr.
Demain, on a Bébé Rexha qui vient nous voir.
Oh,
voilà, qui sort un nouveau hit, qui passe nous voir, nous faire un coucou dans l'émission, donc on est super contents. Et ce soir, faut qu'on trouve. On fait du pendule avec Marie chaque mercredi.
Ah ouais?
Et après, le reste, faut qu'on voit.
Comment ça, du pendule?
Et Marie, elle est passionnée par le pendule, c'est les énergies.
Ah bon?
Elle a un petit pendule. Et ben ça cartonne, donc les gens nous appellent. On met pas cette musique normalement.
Non mais ça marche.
Non, je te jure. Les gens nous appellent, on est sur Twitch pour qu'il y ait la vidéo. Et elle a des petites cases avec marqué oui, non, peut-être. Et elle pose la question et le pendule, mais vraiment, ouais, il
mais
va sur la case.
Bouge.
Et ben moi pour voir tous les soirs ce qu'on fait et voir sa main, elle ne bouge pas.
D'accord, mais est-ce qu'il y a un SAV derrière? Est-ce que ça s'avère vrai?
Oui, alors c'est là où on intervient avec Charlie. Oui, parce que nous à la base on n'y croyait pas. Et en fait, on est en train de tenir un tableau de statistiques.
Oui.
Et on demande aux gens de nous rappeler, genre par exemple là, il y a pas longtemps, on a eu est-ce que je vais avoir ce poste pendant l'entretien d'embauche. Le gars, il avait l'entretien le vendredi. On a dit, donc c'est lundi là. Tu nous rappelles lundi. On veut savoir si t'as été
c'est
pris pour voir si le pendule avait
le
raison.
Tableur Excel pour tenir le tableur Excel.
Ben, voilà. Et Charlie n'y croit pas du tout, je précise.
Ah bon.
Ah, pendule, j'ai du mal un peu. Elle,
ouais, moi j'y crois pas.
Je suis pas dans votre coin ça. Mais ça marche. Hein, après, il y a un auditeur qui nous a appelé, nous a demandé si sa femme allait être enceinte et finalement elle était pas enceinte.
Et finalement, ça n'a pas marché.
C'est ouais, le pendule a dit oui et finalement non.
C'est bien, ça donne. C'est une belle histoire.
Ouais, hein. Je pense que vous leur mettez des beaux ascenseurs émotionnels à vos auditeurs.
C'est oui, chez Jacques Ali.
Ils étaient à.
En fait,
bah,
non.
9 ans de PMA et c'était plus grand temps de leur vie.
Voilà, aujourd'hui, ils sont séparés. Comme quoi, visiblement, les prises de sang sont plus fiables
que le pendule de Marie. ouais. Écoutez bien ce soir, c'est important, 22h.
Allez, on vous embrasse les copains, bonne soirée tout le monde.
Camille Combal, c'est tous les jours sur NRJ et en podcast sur toutes les plateformes.
Bon chemin.